Alors, bonsoir à tous.
Je vais vous demander une petite minute d'attention pour vous présenter. Donc, c'est une grande première pour nous puisque nous avons un nouveau partenariat. Vous savez qu'à l'internat, on aime bien faire des partenariats avec les associations sur la ville de Marly-le-Roi. Et donc, nous avons un nouveau partenariat avec Béatrice Traîneau, ici présente, avec son association Lecture et Rencontres. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps et elle nous a proposé très gentiment de faire venir Benjamin Berthaud, qui est un ancien élève du lycée Louis de Broglie. Donc je le laisserai se présenter après. Et elle nous a proposé qu'il vienne vous exposer un peu son retour, comme vous avez vu sur l'affiche. Il était présent à Dubaï et ses impressions. Et comme il est jeune et dynamique, on s'est dit que vous alliez forcément adhérer. Et donc, ce soir, nous avons convié les membres de l'association Lecture et Rencontre, que je salue et que je remercie d'être présents. Et ça nous permet d'avoir un moment d'échange aussi intergénérationnel. Voilà. Je remercie aussi M. Burgot de la mairie de Marly-le-Roi qui est présent aussi ici, ainsi que mes collègues et mes assistants d'éducation qui sont présents. Voilà. Donc, je laisse la parole à Béatrice Traîneau et je suis très ravie, ça ne se dit pas, et je suis ravie de ce nouveau partenariat avec votre association. Bienvenue.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce bel auditorium. Donc, je m'appelle Béatrice Traîneau, je suis la présidente de l'association Lecture et Rencontres. Cette association a été créée en 1972 et elle rassemble les lecteurs amis de la bibliothèque de Marly-le-Roi. Depuis 50 ans, notre action est de promouvoir la littérature dans la ville et la culture en général. Et nous nous sommes dit que le climat est l'affaire de tous, des jeunes, des moins jeunes, et que étant l'affaire de tous, c'est un sujet dont s'emparent de plus en plus les artistes et les écrivains. Et nous sommes ravis de donner la parole ce soir à Benjamin, qui est très souriant pour nous parler du climat, ce qui est assez rare. Et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Donc, bienvenue à Benjamin, nous l'applaudissons.
Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être venus ce soir. Merci Béatrice pour cette belle opportunité. Merci Heidi de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre. Je vais vous parler ce soir de la COP28 et petite précision technique. Ça va durer 30-40 minutes. N'hésitez pas à prendre la parole pendant que je parle pour des clarifications, des questions que vous auriez potentiellement. Et ensuite, on va profiter, comme l'a dit Heidi, d'avoir des jeunes et des moins jeunes, on dira, pour avoir une discussion entre tout le monde. Ce serait sympa. Voilà, j'ai su que vous aviez préparé des questions et qu'elles étaient super intéressantes, donc voilà. Alors, la COP28, ça s'est passé à Dubaï. Vous avez ici une des rares photos de Dubaï, il y a des nuages. Normalement, il fait tout le temps beau, mais là, j'en ai pris une qui y avait des nuages, parce que vous allez voir, le changement climatique, c'est pas si drôle que ça. Et donc voilà, je voulais juste mettre ça en introduction, et d'abord commencer par mon parcours éducatif, professionnel et associatif. En commençant par cette photo magnifique d'il y a presque 10 ans, où j'étais à votre place, au lycée Louis de Broglie. J'ai fait un petit zoom pour que vous remarquiez mon collègue Rosario à droite, qui avait porté un bonnet de Père Noël. Voilà, mais je pense que je n'ai pas trop changé. J'ai recroisé des anciennes professeurs tout à l'heure qui m'ont reconnu, donc ça va, encore des cheveux. Après le lycée, moi j'ai fait une classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs à Paris, au sud de Paris. Et ensuite, je suis parti à Grenoble faire mon école d'ingénieur sur le domaine de l'énergie et du nucléaire. Et ça m'a ensuite conduit à faire un échange à Stockholm, en Suède. Et sur la fin, j'ai aussi fait un stage en Angleterre. Voilà pour ce qui est de l'éducatif. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille et en étant souriant, comme a dit Béa, ça m'a beaucoup servi dans ma carrière, à cette organisation internationale qu'on appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc photo de classe, mais un remake sans le bonnet de Père Noël. C'était un panel, donc l'AIEA, c'est l'organisation onusienne qui est dédiée au nucléaire, donc pas mal sur le sujet de la bombe nucléaire, mais aussi sur le nucléaire civil, et notamment sur le démantèlement nucléaire. Sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, Et le but de cette agence, c'est d'aider les États membres de cette agence à ce que le démantèlement nucléaire se déroule bien. Voilà, et ça c'était un panel avec d'autres jeunes qui avaient mon âge, où on discutait du rôle des jeunes dans le nucléaire. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous, vous et moi, c'est qu'il y a une tendance quand même au niveau mondial, dans les institutions intergouvernementales, à donner de plus en plus de place aux jeunes. Donc n'hésitez pas à contacter, à aller voir ce que propose l'ONU en termes de réseau de jeunes. Ils veulent la voix des jeunes, donc allez-y à fond. Et dernier parcours associatif, donc voilà, un peu moins sérieux, plus en mode militant associatif, avec une grosse barbe, à la COP26 à Glasgow, il y a 2 ans maintenant, et c'était avec une association, la COP28 était aussi avec une association qui s'appelle la Fresque du Climat, que je vais vous présenter juste après, plus en détail. Mais un message sur ce parcours associatif, quand j'ai commencé mes études d'ingénieur, on m'a souvent reproché de ne pas faire assez d'associatif, de ne pas avoir être allé assez vers ces acteurs qui peuvent enrichir le parcours professionnel mais aussi personnel. Donc voilà, je veux juste souligner et faire passer le message que allez-y, si vous trouvez une association qui vous branche au niveau local ou même au niveau international, foncez, moi c'est ce qui m'a permis d'aller à la COP26 et à la COP28 dont je vais parler aujourd'hui. Le changement climatique, donc c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qu'il y a derrière les COP chaque année. Et au lieu de vous faire un cours descendant de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en est, etc., je vous propose de faire un petit quiz pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau du changement climatique. Avec quelques questions. La première question étant, la température moyenne a augmenté depuis 1850 de 0,3 degrés Celsius, de 1,1 degrés Celsius ou bien de 1,3 degrés Celsius. J'avais pour but d'utiliser, comme je vous l'avais dit, les portables, mais finalement ça ne va pas se faire, donc je vous propose de faire un petit système de vote avec la main. Donc, option 1, 0,3 degrés, vous baissez la main. Option 2, 1,1, vous mettez la main au milieu. Et option 3, 1,3 degrés, vous levez la main vers le ciel. Est-ce que c'est clair? Ça va? Alors, on va faire le vote à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, pas mal. Ben, y en a qui suivent quand même les autres, mais bon... Ok, pas mal. La bonne réponse, et vous êtes pas mal à la retrouver en fait, c'est 1,3 degrés. Pourquoi c'est important? J'attends un peu. Ça anime les foules. Pourquoi c'est important de se rendre compte que 1,3 degrés, enfin on a déjà augmenté la température de 1,3 degrés Celsius, c'est quand on vous parle aux informations d'un objectif de diminuer la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius, bon, on en est déjà à 1,3. Donc gardez ça en tête pour la suite, on n'est pas dans le beau drap jusqu'ici. Sur la slide précédente, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot « moyenne » est en italique, et il y a une bonne raison pour ça, parce que, attention, on ne parle pas de température au jour le jour, vous savez très bien que ça peut varier d'une dizaine de degrés ou plus sur une journée. On n'a pas quelque chose, on n'a un peu rien à fiche. Donc, je voulais juste focus un petit peu plus sur la température moyenne. Qu'est-ce que ça représente, une température moyenne? Avec cette question, aujourd'hui, la température moyenne est de 15 degrés Celsius à la surface de la planète Terre. La question pour vous, quelle était la température moyenne lors de la dernière période glaciaire? Dernière période glaciaire, ça, c'était il y a 20 000 ans. Juste pour vous donner un peu plus de contexte, dans une période glaciaire, on pouvait traverser la Manche à pied pour aller en Angleterre, et Stockholm était sous 2 km de glace. Donc c'était un monde complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. On va refaire le même système, j'espère que c'est toujours clair. Donc on baisse le bras pour moins 10 degrés, on met le bras au milieu pour 0, et plus 10 degrés Celsius en haut. Vous êtes prêts? 1, 2, 3... Pas prêt, personne n'est prêt, personne n'a compris. Tout le monde a baissé le bras? Là, tu bouges pas quand même. Hein. Ok, très bien. Parfait, bon, vous êtes moins fort que la dernière question. La bonne réponse, c'est 10 degrés Celsius.
Mais comment tu veux traverser la manche
Prends le micro. C'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu de quand on parle d'une augmentation de température moyenne de 2 degrés Celsius au niveau planétaire, c'est monumental. 5 degrés, c'est un monde complètement différent. Donc 2 degrés, c'est déjà extrêmement important. Souvent, on nous dira « Oh, 2 degrés, c'est pas grand-chose, sur la journée, ça augmente de beaucoup plus. » Bon, bah écoutez, voilà, vous rendez compte maintenant que 5 degrés, c'est énorme, 2 degrés, c'est hyper conséquent aussi. Question suivante. Enfin, un petit jingle. Le changement climatique d'aujourd'hui est dû aux émissions de CO2 que nous avons émises il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc c'est pour vous rendre compte un petit peu de l'effet de retardement qu'il y a sur les émissions de CO2. C'est-à-dire que ce qu'on émet aujourd'hui ne va pas forcément avoir un impact sur la température tout de suite demain. Il y a un effet de retardement. Même principe, main en bas 10 ans, main au milieu 20 ans, main vers le haut 30 ans. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Pas mal. Pas mal. À peine découpé, mais il y en a quelques-uns qui ont la bonne réponse, c'est 30 ans. La bonne réponse est toujours celle du bas. Hein. Indication pour la prochaine. Donc rendez-vous compte quand même que ce qu'on émet aujourd'hui, les effets qu'on ressentira, ce sera que dans 30 ans. Ça veut aussi dire que si on s'arrête d'émettre du CO2 aujourd'hui, on a encore une hausse des températures pendant 30 ans devant nous. C'est pas une très bonne nouvelle. Dommage, il n'y a pas de réponse en bas, désolé. La fonte, dernière question pour vous, la fonte de la banquise. Attention, c'est en italique, je parle bien de la banquise, de la glace qui est déjà dans les mers. La fonte de la banquise entraîne la montée du niveau des mers. Vrai ou faux? On n'a qu'à faire, bas pour vrai, faux vers le haut, ça vous va? 1, 2, 3. Ouais, pas mal. Il n'y a que quelques-uns qui ont eu bon, malheureusement, c'est faux. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer pourquoi? Tu veux expliquer pourquoi?
Julia, tu veux expliquer?
Vas-y. Attends, on va donner un micro. Sinon, on peut lui donner le mien. Hein.
C'est faux parce que l'eau glacée, ça prend plus de place que l'eau liquide. Et du coup, vu que la banquise, elle est déjà à moitié dans de l'eau, quand elle fond, elle prend même moins de place que quand elle était glacée.
C'est bon, c'est la bonne explication.
Bravo, Julia.
Bravo. Chez les moins jeunes, il n'y avait que quelques bonnes réponses quand même. Hein. une façon très rapide de l'expliquer autour de vous, à vos familles ou à vos potes, c'est d'expliquer avec un verre de Coca-Cola. Donc un verre de Coca-Cola avec des glaçons remplis jusqu'en haut, à ras-bord. Vous attendez 10 minutes que les glaçons disparaissent, l'eau ne sortira, ou le Coca plutôt, ne sortira jamais du verre. C'est-à-dire que les glaçons participent déjà au fait que le niveau du Coca est à cet endroit. Voilà. Bon, fin du quiz, maintenant, je vais parler un petit peu plus de qu'est-ce qui m'a emmené à ces deux COP, COP26 et COP28. C'est un projet qui s'appelle la fresque du climat. J'étais heureux de savoir que dans l'audience, il y a aussi quelqu'un qui connaît bien cet outil. La fresque du climat, c'est basé sur un groupe d'experts qu'on appelle le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC. C'est en fait un groupe de scientifiques qui s'occupe de dresser l'état de l'art de ce que l'humanité connaît sur le changement climatique. Donc en fait, c'est eux qui tirent un petit peu la sonnette d'alarme pour nous dire, voilà, on est à 1,3 degré Celsius aujourd'hui, telles sont les conséquences, telles sont les causes. Ils publient des rapports depuis 1988, et le sixième rapport qu'ils ont produit, c'était en 2021, juste avant la COP 26. Le problème de ces rapports, c'est qu'ils font 2400 pages. Donc, soit vous êtes très très courageux et courageuse, et vous êtes content d'aller lire un papier scientifique de 2400 pages, soit vous participez à une fresque du climat qui ne dure que 3 heures, et pour lesquelles, durant lequel, c'est un atelier qu'on organise, on se base sur ce travail scientifique de 2400 pages que l'on a digéré et découpé en 42 cartes qui représentent des éléments du changement climatique. L'idée de l'atelier, c'est de rassembler des participants autour d'une table, généralement entre 4 et 7 personnes, et que ces personnes découvrent les 42 cartes et ils doivent placer ces cartes dans une suite logique cause-conséquence. La force de l'atelier, c'est que, un peu comme j'ai fait maintenant, on n'essaye pas d'être descendant et d'expliquer des choses aux gens, on essaye de les inclure dans la démarche d'apprentissage, et vous savez très bien que c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, c'est un outil assez puissant qui permet de bien comprendre ce que c'est que la physique du changement climatique. Donc, par exemple, de savoir que la fonte de la banquise n'entraîne pas la hausse du niveau des mers. Un animateur, comme je le suis, guide les participants durant l'atelier, s'assure de la bonne communication et de l'implication de tout le monde. Voilà, c'est un atelier super, on en parlera peut-être après. Atelier en 4 phases, la première phase étant de raisonner et de comprendre les cartes, qui sont parfois assez scientifiques, pendant 1h30. La phase 2, l'idée c'est d'absorber et de créer, aussi d'ancrer le savoir de ce qu'on a fait. La phase 3, c'est d'exprimer ses émotions, d'accueillir ses émotions, et ça fait partie d'une plus grande phase qu'on appellera le débrief, qui est de partager ses idées et ses opinions, encore une fois, sans que l'animateur impose ses idées et ses moyens d'action au groupe, mais plutôt qui s'inspire de la discussion du groupe pour faciliter une discussion orientée vers les solutions. Et ça marche plutôt bien, chiffre sorti juste fraîchement à 17h32, on a passé le 1,5 million de participants depuis 2018, donc c'est un atelier qui marche vachement bien, et qui est présent dans plus de 150 pays, dans 55 langues. Et les publics vont de 11 ans jusqu'à 90 ans et plus, il n'y a pas de limite. Et ça va dans le public, dans l'enseignement, dans le privé. Voilà, on a vraiment des outils adaptés pour n'importe quel public. Alors, histoire des COP climat, puisqu'on est là quand même pour parler de la COP 28. Déjà, COP, ça veut dire quoi ? Est-ce que quelqu'un sait ? Voici. Tout le monde sèche. En français, c'est CDP. Ça aide pas ?
Ah, c'est quelqu'un.
Je crois que tu as dit la bonne. T'as dit. Conférence des parties, absolument. Conférence des parties.
Bien, Anna.
Bravo. Bravo, bravo. Effectivement, COP, ça veut dire, enfin CDP, ça veut dire conférence des parties, et maintenant on utilise le terme que anglais qui est conference of parties. Pour la faire courte, les COP, et attention, des COP, il y en a de différents types. À ma connaissance, il y a au moins la COP biodiversité qui s'attaque à la crise de la biodiversité qu'on connaît aussi. Celle dont on parle aujourd'hui, c'est les COP qui se dédient au changement climatique, donc au climat. On les appelle les COP climat. Ces COP climat, j'en ai fait un résumé à ma sauce, elles permettent de se mettre d'accord sur un plan d'action mondial concret pour faire face au changement climatique. Comment ça marche ? C'est comme un énorme parlement démocratique avec plus de 198 parties, 197 pays et plus une qui est l'Union européenne. Petite slide un peu plus chargée pour vous retracer l'histoire de ces COP. Alors accrochez-vous avec moi. Ça commence en 1972, donc en fait assez tôt.
C'est à la création de Lecture
Aéroport. Eh ben voilà. Il y a un lien, je pense. Il y a un lien. Avec cette conférence de Stockholm, qui a été le premier colloque mondial faisant de la question environnementale une priorité, et dans le même temps la création d'une organisation onusienne qui est dédiée à l'environnement, qu'on appelle l'UNEP ou PNUE, Programme des Nations Unies pour l'Environnement. 1972, ça remonte quand même à assez loin, donc ça nous remet aussi en contexte qu'on est au courant de ce qui se passe depuis longtemps et qu'on n'a pas fait énormément jusqu'ici. Il va falloir attendre 1992 pour avoir le premier sommet de la Terre. Vous avez peut-être déjà entendu ce que c'était qu'un sommet de la Terre. Et bien c'est le premier, il était à Rio, et c'était en 1992. Et on a pour la première fois la définition officielle du développement durable. Je suis sûr que vous en avez parlé en cours de culture G, j'espère. Et on a la création des fameuses COP, les Conference of Parties. La première COP, c'est à Berlin, et pour la première fois, on a des objectifs quantifiés en termes de réduction des émissions de CO2, 1995, 3 ans seulement après l'annonce, c'est pas mal hein, pour le coup. 1996, on a la deuxième, où pour la première fois, la phrase, je l'ai mis entre guillemets, parce que pour la première fois, on estime que le changement climatique représente une menace pour l'humanité. La COP 3, c'est le protocole de Kyoto, peut-être que vous avez déjà entendu aussi parler de ce terme, à droite à gauche. C'est le premier protocole restrictif. Donc pour la première fois, l'objectif, c'est d'encadrer la réduction des émissions de CO2. En 2002, l'Islande ratifie le protocole de Kyoto. On aurait pu en avoir rien à faire, mais je ne défends pas l'Islande, absolument pas. Mais simplement, c'était le 55e pays à ratifier le protocole de Kyoto, et c'est ce qu'il a validé. Donc dans le jargon international de la diplomatie, il faut un certain nombre de pays pour qu'un protocole soit ratifié. Et là, c'était le 55e, donc ça l'a validé. Le problème du protocole de Kyoto, malheureusement, c'est que le Canada, les US et la Chine sont sortis de ce protocole, donc il est un peu très vite tombé à l'eau. Et la COP21 à Paris, je suis sûr que vous avez entendu parler de celle-ci, elle est revenue en force pour adresser des objectifs que le protocole de Kyoto avait, et voilà, avec plus de pays. Et ça a été assez historique, puisque pour la première fois, 196 pays ont signé un papier, un texte, dans lequel, je cite aussi ici, il faut maintenir le réchauffement de la planète bien au-dessous des 2 degrés Celsius. Et lors de ces accords de Paris, de cette Conference of Parties de Paris, il y a eu un accord aussi sur le fait de publier les objectifs de réduction de chaque pays. Et ça nous mène du coup à la COP28. Quelles avancées? Je vous assure, ils ont travaillé entre-temps, mais on ne va pas refaire l'histoire de toutes les COP. Une question?
Pourquoi elle s'appelle 28? Pourquoi on est passé
de 21 à 28? Il y en a eu, c'est une bonne question. La question c'est pourquoi on est passé de 21 à 28 directement. C'est qu'il y a eu plusieurs COP entre-temps, mais on ne va pas toutes les détailler. Et la COP, c'est chaque année, et ça a commencé en 95, c'est ça. Et du coup, c'est la 28e. Voilà. La COP28, ça s'est passé à Dubaï. Dubaï, magnifique ville qui vous immerge dans un paysage futuriste. On a vraiment l'impression d'être dans Star Wars. Il ne manque plus que les voitures volantes. Et ça a fait quand même vachement polémique. Je pense que vous venez ce soir aussi pour vous intéresser au sujet. C'est dans un pays producteur de pétrole, le 8e au monde. C'est un gouvernement dont les revenus sont basés à 55% sur le pétrole. Donc voilà, on n'est pas dans une situation très propice à faire des avancées majeures en termes de négociations sur le changement climatique. Mais voilà, c'était là-bas, et je crois que dans une de vos questions, qui était très bonne d'ailleurs, il était mentionné comment choisit-on un lieu pour avoir une COP. Eh bien, c'est pas anodin, ça fait partie du jeu diplomatique international, et il y a une rotation de plusieurs pays, c'est décidé par l'organisme qui organise les COP, qui s'appelle la CNUC, je suis désolé, ça va faire beaucoup, beaucoup d'acronymes ce soir, mais on est obligé de passer par là, et ils essayent de diversifier en termes de régions chaque année. Donc là, c'est tombé sur Dubaï. C'était pas voulu absolument que ce soit dans un pays qui produit des pétrole. Le point que j'aimerais mentionner quand même, c'est que il est intéressant tout de même qu'on ait ces COP dans des pays qui produisent du pétrole. Parce que mine de rien, ces gens-là, ils produisent du pétrole, toute leur société, tout leur gouvernement est basé sur le pétrole, mais ils ont vu, comme tout le monde, les courbes, ils savent très bien qu'il y a une quantité finie de pétrole dans leur pays, donc il va falloir qu'ils transitionnent vers autre chose, quelle que soit la motivation. Et c'est vrai de Dubaï, c'est vrai, des Émirats Arabes Unis, puisqu'ils se sont mis directement au nucléaire, avec 4 réacteurs nucléaires qu'ils ont construits récemment, et la plus grande centrale solaire au monde. Donc voilà, ils se diversifient, c'est des gens quand même qui pensent à la transition, et qui savent très bien qu'il va falloir, dans tous les cas, transitionner vers autre chose. Et pourquoi c'est intéressant de leur parler aussi, c'est que, puisqu'ils sont en réseau, quand on en parle à un, on en parle à plusieurs. Et donc le président de cette COP28, c'était Al-Jaber, qui est le président directeur général de l'entreprise de pétrole des Émirats Arabes Unis, et c'est un peu grâce à lui aussi qu'on a pu faire des avancées majeures en termes de ce qu'il y a dans le texte, on en parlera juste après, parce qu'il était en réseau, il parlait à tous les gens autour de lui qui font partie de l'OPEC. OPEC, merci. Point clé de la COP28. Bon,
merci beaucoup.
Point clé de la COP28. On est parti du constat que ça allait pas être une très bonne nouvelle, cette COP28. Moi, je vais essayer. J'ai une vision un peu plus optimiste de la chose. Et on va essayer de voir ce qui est ressorti et ce qui est assez prometteur et plein d'espoir finalement pour l'avenir. Le premier, c'est que pour la première fois de toute l'histoire des COP, il y a le terme abandon des combustibles fossiles. Et ça, c'est pas arrivé à Paris, c'est pas arrivé à Glasgow, c'est pas arrivé en Égypte, c'est arrivé à Dubaï. Donc, voyez-y du greenwashing, voyez-y une manière de contourner le problème. En attendant, à l'heure actuelle, c'est dans les promesses du texte et à voir ce qu'ils feront avec, mais c'est quand même une grosse avancée. La deuxième, c'est la création d'un fonds qui s'appelle le fonds.
Oui. Il y a une échéance qui est donnée pour l'abandon.
Il y a une échéance, oui, c'est 2050. Ouais. Dans le temps. Merci. Nous, deuxième point assez sympa de cette COP28, c'est la création d'un fonds qui s'appelle le fonds Pertes et Préjudices, qui est, pour vous la faire courte, un fonds qui sert à venir en aide aux États qui font face directement au changement climatique et qui font face souvent à des événements climatiques extrêmes et qui se retrouvent du coup dans une situation très complexe où ils ont besoin d'un soutien financier. Eh bien, un fonds a été créé pour les aider. Généralement, c'est des fonds qui sont financés par les États des pays du Nord et qui vont généralement vers les États du Sud. Bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, c'est une idée qui est sortie de la COP27, donc un an avant la COP28, et seulement un an après, on a réussi à mettre en fonctionnement ce fonds. Donc c'est une première dans le processus onusien qui est normalement très froid, très lent, etc. On a réussi en une seule année à le mettre en place. Et ça va venir en aide aux États qui font face au changement climatique en premier. Autre aspect intéressant de cette COP28, c'était le sommet des élus locaux. Je crois qu'il y en a, un ou deux dans la salle. Et bien voilà, ont été réunis plus de 2000 élus locaux, des maires, des gouverneurs, des présidents de régions et autres, pour parler de l'adaptation et de l'atténuation des effets du changement climatique dans les villes. Et pourquoi c'est important ? Parce que les villes, il y en a beaucoup sur les côtes qui vont du coup faire face à la hausse du niveau des mers en première. Et au-delà de ça, la température dans les villes, vous le savez peut-être qu'à Paris, il fait généralement un peu plus chaud qu'à Marly, parce qu'il y a un effet de densification de la chaleur. Donc c'est des acteurs qui vont faire face au changement climatique en premier. Un lien à la COP28 a été fait. Je vous parlais juste avant des différents types de COP. Donc la COP climat, il y a la COP sur la biodiversité. Bien, pour la première fois, la COP28 sur le climat, on a parlé de faire un lien avec la COP qui est dédiée à la biodiversité et qui a eu lieu à Montréal l'année dernière. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, ça s'appelait la COP15 sur la biodiversité. Et voilà, dans le texte de cette COP28 apparaît la phrase « L'importance de conserver, de protéger et de restaurer la nature et les écosystèmes pour atteindre l'objectif de la température de l'accord de Paris. » Dernier point que j'ai trouvé assez intéressant, c'est simplement une note en bas de page du texte, mais je trouve ça quand même assez important. Note qu'il importe d'adopter des modes de vie et des modes de consommation et de production durables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, notamment par le biais d'approches d'économie circulaire et encourage des efforts à cet égard. Donc, généralement dans ces textes, c'est de très très haut niveau, c'est de la stratégie et des directions politiques au niveau international qui sont données. là, pour une fois, on parle un petit peu de... On remet en question notre mode de vie. Et je trouve ça assez intéressant parce que nous, qui vivons dans une société de surconsommation, on remet ça enfin en cause. Le rôle de la France à la COP28, malheureusement, j'étais pas négociateur, mais de ce que j'ai vu, il y avait un super pavillon de la France à la COP28 qui était dédié à montrer comment la France évolue vers un système énergétique décarboné et d'autres avancées au niveau français. On a la chance d'avoir des très bons diplomates en France, donc voilà, ils ont aussi fait un super travail au niveau des négociations. Et sur le nucléaire, vous le savez sûrement que la France, son dada, c'est quand même le nucléaire. Il y a une déclaration de triplement du nucléaire d'ici 2050 qui a été signée. Donc une grosse avancée pour le domaine du nucléaire à cette COP28. Et nous, on fait quoi? Et je vous assure, c'est presque fini. Je vois qu'il y en a qui s'endorment. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, la première proposition que j'ai à vous faire, c'est... de faire une fresque du climat, d'en apprendre plus sur ce que c'est que le changement climatique, de devenir animateur et animatrice vous-même, parce que c'est très simple, après 3 heures d'atelier, on fait 3 heures de formation, on devient animateur ou animatrice de cet atelier. En parler autour de vous, avec les connaissances que la fresque du climat pourrait vous fournir. En parler avec les élus locaux, la ville de Marly-le-Roi, vous investir dans la vie associative aussi, c'est super important, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Essayer d'aller... challenger, d'aller défier vos modes de vie au jour le jour sur la consommation de viande, par hasard. Je regarde mes parents, ils sont dans la salle qui me font à manger tous les jours, évidemment. Et sur vos modes de déplacement aussi, utilisez plutôt le vélo électrique si vous voulez. Mais c'est important de qu'on prenne tous ce sujet en main, car il s'agit d'un sujet qui va nous impacter, qui nous impacte déjà aujourd'hui, au jour le jour. Donc voilà, nous on se forme, on s'engage et on devient moteur de la transition. Et je vous remercie.
Alors maintenant on va passer aux questions. Si les élèves, sur les questions que vous avez présentées, que vous avez préparées, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles Benjamin n'aurait pas répondu? Ou si vous avez d'autres questions en manière générale aussi?
Tu parlais tout à l'heure de triplement en termes de capacité nucléaire en France d'ici 2050.
Mondial.
Et la France, on revient peut-être au slide d'avant. Déclaration de triplement du nucléaire d'ici 2050, c'est mondial.
C'était la déclaration qui faisait partie du texte de la COP28.
Mais la France, est-ce qu'elle a pris, elle, un engagement? Parce que là, on va tout. Grosso modo, on a l'impression que de brancher sa voiture électrique dans la terre, et que c'est pratiquement gratuit, enfin, c'est pas tout à fait gratuit, mais en fait, il va bien falloir quand même. Oui, c'est pas écologique, on est bien d'accord. Enfin, ça n'émet pas de CO2 par rapport à d'autres types de centrales, mais. Enfin, ça, on peut en discuter des heures. Mais non, mais est-ce qu'on a la capacité de répondre à ça? Parce que c'est bien gentil de prendre des objectifs d'un degré et demi, etc. Mais est-ce qu'on a la capacité de se dire finalement en 2050, puisque c'est ça la chose, on va arriver à se passer du pétrole? On va arriver vraiment à se décarboner?
Plusieurs questions dans une, mais sur la question du nucléaire, la France s'est fixée comme objectif de construire 6 à 8 réacteurs nucléaires dans les années à venir. Donc ça fait partie du contrat de triplement du nucléaire d'ici 2050. Après, il y a beaucoup de pays qui commencent l'aventure nucléaire à l'heure actuelle aussi. Après, est-ce qu'on va arriver à s'affranchir du pétrole d'ici à 2050? J'ose l'espérer, et c'est via des énergies comme le nucléaire, mais pas que. Plein d'énergies à considérer pour arriver à se passer de ce pétrole, de ce gaz et de ce charbon. Enfin, aussi des autres.
Merci. D'autres questions, oui, monsieur?
Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des pays qui ont des valeurs différentes entre, justement, le réchauffement climatique par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation, Europe, Asie, Afrique, dans ce problème que vous avez posé?
Oui, en termes de volonté politique, il semblerait quand même que l'Europe soit très en avance sur ces sujets changement climatique au niveau de la politique européenne. Après, la volonté politique, par exemple, en Chine, est un petit peu moindre, mais comme ils font face directement au changement climatique et à des phoques monstrueux dans leur ville, ils y pensent aussi plus au niveau local qu'au niveau national.
Et des pays comme l'Indonésie, par exemple, le Japon et autres.
Japon, oui. Indonésie, j'ai pas connaissance pour vous répondre, malheureusement. Après, voilà, il y a des pays comme... Ça dépend de la présidence, mais l'accord de Paris, M. Trump avait eu la bonne idée de sortir de cet accord de Paris, et Biden est revenu et a dit on retourne dans l'accord de Paris. Donc ça dépend, c'est très variable aussi dans le temps. Mais on va dire que l'Europe, d'un point de vue politique, climatique et énergétique, est quand même assez en avance et plus stable, finalement.
Tu nous as parlé tout à l'heure d'un fonds qui avait été créé pour aider les pays qui étaient les plus soumis, enfin qui subissaient le plus le changement climatique. Est-ce que tu as des éléments en termes du type de cotisation, qui va cotiser le plus? Tu dis que c'est les pays du Nord, mais est-ce que ce sont les pays qui vont émettre le plus de CO2? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ce sens-là ou pas?
Le mécanisme clair de qui va payer et comment n'est pas encore totalement défini. Il y a quand même 700 millions d'euros à l'heure actuelle, ou de dollars pardon, qui ont été mis dans ce fonds. Ce qui n'est pas beaucoup quand on pense à ce qu'on devrait mettre pour la transition. Après, ça, c'est vraiment un fonds en cas d'événements extrêmes. Les mécanismes n'ont pas été définis. Après, pour l'instant, en tout cas, c'est les pays qui peuvent s'offrir des dons. Et quand c'est des dons, il y a aussi des pays comme la France, malheureusement, qui ne souhaitent pas faire des dons à ce genre de fonds et qui, à chaque fois, mettent des conditions. Donc, en fait, il s'agit d'un prêt. Et ça pose beaucoup de problèmes, et à chaque fois c'est en discussion au COP de dire voilà, on aimerait bien que ce soit des dons et qu'il n'y ait pas de conditions sur ces financements. Après, en termes d'émissions, de qui émet le plus, malheureusement c'est difficile de définir qui est responsable pour le changement climatique, parce qu'effectivement si on regarde aujourd'hui, on fait un capture d'écran aujourd'hui des émissions de CO2, on verra que la Chine arrive en première, ensuite les US et peut-être en troisième l'Europe. Si on fait un cumulatif de ces émissions de CO2 sur 150 ans, en fait on verra que les US et l'Europe arrivent en premier et la Chine n'arrive que troisième. Et je reviens sur la petite question sur le délai, le retardement, sur l'effet qu'on ressent des émissions de CO2, c'est 30 ans après. Donc qui est responsable pour ce changement climatique? Qui doit payer? Question très compliquée.
Tiens-nous.
Moi j'ai une question. Comment pensez-vous que la COP peut agir au niveau international pour faire atténuer l'utilisation de gaz des pays, ou peut-être en mettant des sanctions à ces derniers? Et si cela marche, ils vont changer les gaz par quoi, vu que c'est le monde qui peut agir pour les pays et leur niveau PIB?
Je n'ai pas entendu la fin de la question.
Pardon. En fait, si cela marche, que les pays disent ok, ils vont plus utiliser les gaz, ils vont, vous pensez remplacer les gaz par quoi exactement, vu que c'est le moteur qui fait marcher tous les pays?
Très bonne question. Bon, on revient sur la question que tu as posée juste avant. Et il y a une nécessité de se diversifier en termes de sources d'énergie, et c'est ce que je disais pendant ma présentation. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, qui se basent principalement sur le pétrole, sont en train de se diversifier sur d'autres sources d'énergie, comme le solaire, le nucléaire, mais il y a tout aussi bien l'éolien. Et pour ce qui est de faire marcher nos moteurs, tu parlais des moteurs, pour ce qui est des moteurs, il y a une source d'énergie qu'on appelle l'hydrogène, qui pourrait faire marcher nos voitures, et on a fait une découverte récente en France absolument colossale d'une source naturelle dans le sol d'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène blanc, et qui pourrait nous aider fortement, non pas à continuer nos modes de vie comme on le fait actuellement, mais à aller vers une transition et s'affranchir des énergies fossiles comme le pétrole plus rapidement.
Merci.
Est-ce que vous pouvez donner trois conseils aux jeunes qui terminent leurs études, qui commencent leurs études, sur comment s'engager, comment entrer dans le changement et faire partie du changement et profiter du changement, parce que c'est une opportunité.
Absolument, oui. Premier conseil, j'en parlais juste avant, pour moi il s'agit de se former sur le sujet qui vous intéresse, et la fresque du climat sert parfaitement à ça, à ce qu'on soit clair dans son esprit, mais aussi pour parler autour de soi du changement climatique, je pense que c'est important. Deuxième conseil, c'est s'entourer, et ça passe par la formation aussi, pour profiter justement de cette opportunité, il faut être bien entouré, et pour éviter de rentrer dans l'éco-anxiété et d'avoir que des mauvaises nouvelles tous les jours, c'est important d'avoir des réseaux de copains, en fait, tout simplement, qui sont dans la même démarche. Et enfin, c'est d'y passer du temps et d'y dédier du temps qui n'est pas forcément payé. Je pense que c'est important de se dire que c'est une cause qui mérite plus que d'être payé en fin de mois. Donc ce serait ça mes trois conseils. Pour la faire courte en une phrase, aller vers l'associatif. Voilà.
Merci. Julia ?
Moi, je voulais savoir si les COP, elles ont vraiment une influence sur le comportement des pays et tout par rapport à l'environnement. Parce que d'accord, ils signent des contrats, tout ça, mais est-ce qu'après, il y a vraiment quelque chose qui est fait ou c'est juste du blabla ?
Très bonne question. La réponse courte, c'est que pendant très longtemps, c'était beaucoup de blabla, et que heureusement, maintenant, on a l'impression que ça avance. Notamment, je pense, ce fonds pertes et préjudices, mais ça a été du blabla il y a un an de parler de ce fonds pertes et préjudices. Aujourd'hui, il fonctionne. Et pour des pays, par exemple, comme la Micronésie, le nord de l'Indonésie, qui sont en train de couler, ça va bien les aider. Donc ça, c'est du concret de comment ça va marcher. Après, en termes de réduction des émissions de CO2, c'est vrai que les gens s'accordent et que les intérêts particuliers et nationaux souvent prennent le dessus. Et vous seriez surpris, malheureusement, de savoir que, par exemple, à cette COP28, quand le mot « abandon des énergies fossiles » a été mis sur le texte, tout le monde était d'accord, sauf 20 pays producteurs de pétrole africains qui ont dit « non, c'est pas possible, en fait, nous, on veut quand même utiliser notre pétrole, le produire et se développer économiquement. » Donc, il y a du blabla, un peu moins de blabla. Faut trier. Merci.
Oui, Sarah ?
Pensez-vous que l'objectif de l'accord de Paris de 2015 de limiter le réchauffement à 1,5 degré est encore possible ou même réalisable ?
Oui, c'était une de vos questions qui avait dans la liste, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est pas trop possible de par la hausse des températures qu'on connaît déjà, qui est à 1,3 degré Celsius. Et de garder en tête que c'est des objectifs aussi qui ont été fixés. L'objectif à ne surtout pas dépasser, c'est 2 degrés Celsius. Et malheureusement, si on regarde les courbes d'évolution de la température avec les politiques climatiques qu'on a actuellement au niveau mondial, on va vers un scénario à plus 2,7 degrés Celsius. Donc on est bien au-delà de l'accord de Paris. Et dans des scénarios encore pires où les US ou d'autres pays sortent de ces accords, on va vers des scénarios à plus 3,5. Donc pour l'instant, la courbe, c'est 2,7 degrés Celsius, donc non, on va pas y arriver. Le but, c'est quand même d'arriver à un monde le plus bas possible. Ce sera toujours mieux d'arriver à 2,5 au lieu de 2,7. Puisque en fait, à partir du moment où on dépasse certains paliers, on a des boucles de rétroaction qui s'activent et en fait, la machine s'emballe et ça entraîne des conséquences dramatiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours s'engager. C'est qu'un monde à 2,7, ce sera toujours pire qu'un monde à 2,5.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question ?
Profitez d'avoir des moins jeunes dans la salle, si vous avez des questions pour eux.
Monsieur ?
Est-ce qu'il y a des études météorologiques justement sur l'évolution du climat ? Est-ce qu'il y en a des prévisions de ce qui peut se passer ici ou là justement, si les résultats sont obtenus ou pas ?
Est-ce qu'on a des études météorologiques ? C'est ça la question. Ouais, bah c'est tout le travail de ce GIEC qui fait quasiment consensus. Qui fait 99,9% dans le domaine scientifique, qui fait consensus sur où est-ce qu'on va en termes de réchauffement climatique. Et ils font plusieurs scénarios dans ces rapports. Donc ils font des scénarios où ils s'imaginent dans un monde à plus 4 degrés, plus 8 degrés, plus 2,5, plus 1,5, et ils étudient toutes les conséquences en termes de hausse du niveau des mers, en termes de fonte des glaciers qui sont une source d'eau douce absolument importante pour toutes les populations qui y vivent, qui font aussi des études sur l'occurrence et la fréquence des sécheresses, sur les inondations, voilà, toutes les conséquences physiques du changement climatique. Et c'est leur métier, non pas de faire de la recherche, attention, c'est de compiler toutes ces données qui sont faites partout mondialement. Et encore une fois, le consensus scientifique est à 99,9% des conséquences que l'on voit déjà, notamment sur la hausse du niveau des mers, qui a pris plus de 20 cm depuis 1850. Et voilà, lors des COP, on a des pays comme les Maldives qui prennent la parole et qui disent « Non mais arrêtons les négociations maintenant, tout de suite, parce que notre pays, en 2050, n'existera plus. » Voilà. Encore une question de la professionnelle.
Oui, Julia, elle va finir aussi à la COP. Tu seras la prochaine fois, c'est Centre sur scène.
C'est une question un peu personnelle pour finir. Qu'est-ce que vous faites personnellement, vous, au quotidien, pour contribuer au bien-être de la planète ?
Très bonne question. Moi, je parle à mes parents qui sont dans la salle face à moi maintenant, et je leur demande de manger plus végétarien. Je profite de faire une demande à ma grand-mère, qui est là aussi, de manger plus végétarien. Parce que la consommation de viande, malheureusement, a un gros impact sur les émissions de CO2. Je me déplace beaucoup en vélo et je dédie énormément de temps du bénévolat, malheureusement, à la cause de la sensibilisation aux enjeux climatiques avec cette association qui s'appelle la Fresque du Climat. Voilà. Faites plaisir.
Oui, attendez. L'assistante d'éducation qui nous a posé une question aussi.
C'est parfait. Et il y avait une autre question encore de la part de
Julia. Oui, moi j'avais une question, mais c'était plus par rapport à la question des réfugiés climatiques. Je voulais savoir, est-ce que c'était un sujet qui était primordial pour la COP, ou vous estimez que chaque pays doit prendre ses responsabilités au niveau de la législation pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ? Parce qu'il me semble que d'ici une cinquantaine d'années, il y a certaines zones où des gens ne pourront plus vivre, par exemple dans tout ce qui est du côté tropique au Brésil. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est un sujet qui est sur la table ?
C'est malheureusement un sujet que j'ai pas creusé, donc j'ai pas énormément de connaissances dessus, mais je sais qu'au niveau international et au niveau organisme onusien, le terme réfugié climatique n'a pas encore été acté, donc c'est pas quelque chose qui est reconnu par la législation internationale, malheureusement. Après, tout l'enjeu de ce fonds perte et préjudice dont on parlait juste avant, c'est justement pour aider les États qui font face à la hausse du niveau des mers. Donc indirectement, ça évite d'avoir des réfugiés climatiques. Donc, le mot réfugié climatique, je ne l'ai pas vu passer explicitement dans une COP, mais encore une fois, je n'ai pas énormément de connaissances dessus. Mais voilà, ce que je sais, c'est qu'au niveau international, malheureusement, le terme réfugié climatique, c'est pas reconnu.
Où vont aller habiter les habitants des Maldives ? Parce que toutes les Maldives vont être submergées, donc où vont-ils aller ?
Très bonne question. Voilà. Très bonne question.
Il faudra qu'un autre pays accueille.
Ouais.
C'est compliqué.
Ouais, très compliqué. L'immigration en fait va devenir de plus en plus importante, et même pour nous en Europe, le stress hydrique, donc le manque d'eau dans les pays du Maghreb, va devenir monstrueux. Donc ce ne sera pas des milliers de personnes qui traverseront la Méditerranée, mais plutôt des millions. Et donc il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là. Ouais.
En tout cas, merci beaucoup, hein, Benjamin. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez l'applaudir parce que c'était vraiment un... une intervention à la portée de tous, et c'est très important. Merci beaucoup. Béatrice, je voulais rajouter un petit